Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet enregistrement consacré aux enseignements de la mère de clan de la 8e lune qui est la guérisseuse. Et cet enregistrement, cet audio va parler du premier thème que j'ai choisi d'explorer avec vous qui est la guérison du divin masculin. Alors peut-être est-ce que ça vous étonne un petit peu parce que c'est vrai que la guérisseuse exploite énormément de thèmes. On pourrait parler de lithothérapie, d'aromathérapie, de phytothérapie, vraiment au niveau du soin du corps, mais aussi du soin émotionnel, du soin énergétique, de soigner l'esprit. Il y en aura pour tous les goûts. Et pourtant, effectivement, j'ai choisi de me porter sur la guérison du divin masculin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je ne me limite pas uniquement dans l'exploration du livre des 13 mères originelles de Jamie Sams face à ce que je lis, mais également dans ma connexion avec eh bien, tout simplement les autres mondes, les guides, etc. Et à travers différentes méditations récentes, à travers la réalisation de peintures, mais aussi et surtout avec les tirages les plus récents que j'ai pu faire, il m'a été invité de parler en priorité du divin masculin qui a besoin d'être soigné parce qu'il est abîmé, tout simplement. Alors, avant la fin de, eh bien de la clôture, avant la clôture du mois de juillet, j'ai commencé en fait à recevoir ce message, notamment par les cartes, puisque c'est un petit rituel en fait. Je tire une carte tous les jours ou tous les deux jours. Et là, j'ai tiré 1, 2, 3, 4, 5 cartes, donc sur une semaine, que des informations concernant le divin masculin. Alors, par rapport à tout ce que j'ai pu écrire aussi sur Instagram à ce sujet, c'est devenu de plus en plus fort. Et voilà, j'ai décidé d'en parler avec vous, parce que c'est vraiment un thème qui, je le pense, est très important, sinon ça ne chercherait pas à ce point de vouloir sortir et de vouloir que je le partage avec vous. Et on commence par une citation de la Bible en fait. Alors c'est pas souvent mais ça m'arrive. Alors parce que je suis aussi un petit peu j'ai pas très l'habitude de citer. Alors oui, ce sont les épîtres selon Matthieu 3, 1.15. Et voilà la citation, c'est Jésus qui parle et qui dit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on l'a vu avec la sexualité sacrée dans le mois dernier, c'est que tout comme un enfant ne peut pas physiquement venir au monde sans une femme et un homme incarnés physiques, eh bien, une renaissance spirituelle ne peut avoir lieu sans l'union des deux principes qui sont le féminin et le masculin. Bien sûr, on va au-delà de tout ce qui est éducation, adoption par des couples homosexuels, etc. Ce n'est pas la question, on est vraiment dans la manifestation, dans la création d'un individu. Et malgré l'avancée de la recherche, il nous faut toujours, toujours un féminin et un masculin. Et bien là, en fait, cette citation de Jésus nous dit la même chose parce que l'eau, c'est l'âme, c'est la femme, et l'esprit dont il est question, c'est le masculin. Unir l'esprit et l'âme permet de créer une nouvelle entité humaine, en fait, l'humain en plénitude, l'humain entier. C'est un être entier qui vit dans le monde. Donc c'est pas simplement un être entier à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, dans son environnement. C'est l'individu dans sa communauté. Et il vit dans ce monde d'une façon un peu extraordinaire, c'est-à-dire calme, créative, de façon très agréable et respectueuse. C'est une vie qui est véritablement authentique à l'individu. Et cela nécessite, pour ce faire, eh bien, d'avoir deux principes, le principe féminin et le principe masculin, sains. Et pendant tous ces derniers mois, par la créativité, par l'intégration de toutes ces sagesses, nous avons pu soigner ces deux principes, hein, mais surtout, en particulier, le principe féminin. Et arrivé jusqu'ici, jusqu'à cette huitième lune, eh ben, il va nous falloir de prendre le temps, un peu désormais, de fortifier notre masculin qui a pu se sentir un peu mis de côté. Comme je vous le disais, le mois dernier, nous avons terminé notre atelier sur le concept de sexualité sacrée et nous avons pu voir que toute créativité, toute manifestation était bien l'union de ces deux principes, comme je viens de le résumer. Lorsque nous sommes des célibataires spirituels, entre guillemets, c'est-à-dire que nous n'avons pas fortifié et uni nos deux principes, eh bien, nous ne pouvons pas mettre d'enfant idée au monde. Donc, la sexualité sacrée, c'est la mise au monde de telles idées, de telles inspirations. C'est l'union, ou ce que l'on appelle encore le mariage sacré, notamment dans l'alchimie. Et ce mariage est le cumul de toute une initiation. D'ailleurs, en alchimie, mais aussi dans les contes de fées, on s'arrête souvent au niveau du mariage sacré. On finit par « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Et qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie la même chose. Ça signifie que l'être unifié, donc qui s'est marié, est capable de manifester toutes ses inspirations, toutes ses visions. Il ne s'agit pas uniquement d'art ou de créativité, non, mais de nos vies entières, de notre travail, de notre maison, de notre famille, de l'éducation de nos enfants, de notre environnement, de nos amis, de nos choix, de nos achats de consommateurs, de toutes les façons dont nous menons en fait notre existence. Et donc être célibataire spirituel, c'est mener une vie, malheureusement un petit peu sèche. C'est un petit peu une vie triste qui n'est pas pleinement accomplie finalement. Alors qu'être marié, entre guillemets toujours, puisqu'on est dans les métaphores, hein, on ne parle pas de véritable mariage dans notre vie. Donc ce mariage métaphorique, par contre, lui amène à une vie beaucoup plus riche. Pas forcément au niveau financier, mais c'est être au contact finalement de petits miracles de la vie et surtout en fait d'être capable de reconnaître ce genre de petits miracles. C'est vivre en fait une vie absolument pétillante, voilà. Mais pour qu'un mariage fertile puisse avoir lieu à l'intérieur de nous-mêmes, il nous faut équilibrer nos forces, ces deux principes. Donc que ce soit en méditant, en faisant de l'art cette fois-ci, ou en nous reliant à la nature, nous avons pu développer notre féminin sacré. Et il arrive un moment où ça y est, notre féminin est vraiment épanoui, il est plein d'inspiration, on sent la façon dont il est unique, etc., etc. Mais voilà, est-ce que notre masculin est encore de taille à épouser un tel féminin ? Dans les contes, on essaie parfois de faire épouser la princesse à un roi qui est vieux et malade, et cela ne finit jamais ainsi, elle ne l'épouse jamais, elle finit toujours par épouser un beau et jeune prince. Le beau et jeune prince, c'est le roi vieux. Ce sont deux entités qui sont identiques, c'est la même chose. Sauf que le prince est le roi qui a été régénéré, purifié. Et le roi, vieux et moche, c'est le masculin qui est abîmé, tout simplement. En pratique, dans la vraie vie réelle, avoir un masculin abîmé, ça nous donne l'impression de toujours devoir nous battre, de devoir lutter pour avoir le droit d'être nous-mêmes, cet être unique qu'on a trouvé avec le féminin sacré. Et on croit avoir besoin de faire changer les autres autour de nous, ou en tout cas de faire changer leur perception des choses ou leur avis. On a du mal aussi à définir nos idées ou à connaître nos convictions et de s'y tenir. Et en général, on va emprunter comme ça des convictions à droite à gauche, aux autres, jusqu'à ce qu'on en trouve une meilleure un petit peu plus tard. En tout cas, ça nous donne un petit peu une idée de ce vieux roi qui est instable, en fait. Et qui dit instable, malade, dit manque de sécurité. On ne se sent pas en sécurité avec lui. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas finalement que la princesse épouse ce roi malade. Alors qu'avec le jeune prince, c'est tout autre chose. Il est protecteur, c'est un fin stratège, hein, souvent, qui est plein de discernement. Et on se sent tout simplement protégé parce qu'il est stable, et parce qu'il est stable dans la durée. Et en présence d'un tel prince à nos côtés, quasiment tout est permis pour nous, pour notre féminin. On arrive à donner forme à nos idées, on est créative, pleine de force intérieure, d'estime de soi, et surtout, le principal, c'est qu'on se sent maître de notre destinée. Peu importe ce qui nous arrive, on se sent maître de notre vie. Mais pourquoi est-ce que nous nous retrouvons alors avec ce vieux roi qui bave, hein, qui perd sa salive, plutôt qu'avec le beau prince, très charmant, magnifique? Eh bien, parce qu'on n'est pas bête, hein, finalement, à choisir entre les deux, ce qu'on va désirer le plus, c'est pas un roi tout décrépit, c'est pas celui-là qu'il nous faut, hein, c'est certain. Donc si on a le choix, on va pas choisir celui-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, finalement, ça va être toujours la même chose. Ce sont nos croyances, ce sont nos peurs qui sont responsables de ce roi qui est tout décrépit. C'est toujours la même histoire finalement. La peur du manque surtout fait que notre féminin peut emprisonner comme ça le masculin, lui l'étouffer, ne plus lui permettre de voir la lumière. Et c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans les couples réels cette fois-ci, des espèces de femmes vampires qui étouffent leurs compagnons au lieu de les respecter tout simplement. Et pourquoi? Parce que c'est la peur qui agit, qui nous empêche d'accepter nos différences ou encore qui nous empêche d'être au clair avec nos besoins. Et à force, ce roi va devenir de plus en plus malade parce qu'il est enfermé et étouffé, forcément. Nous devons commencer par nous mettre au clair là-dessus. Quelles sont nos attentes, nos besoins, avant de pouvoir rétablir une communication juste entre nos deux principes. Parce que le masculin ne peut pas être obligé à faire quelque chose. Il doit avoir envie d'honorer ce moi authentique que l'on a trouvé grâce à notre féminin. Donc avant même d'espérer un mariage, une sexualité sacrée, il va falloir équilibrer nos deux principes. Peut-être que la femme vampire est depuis longtemps devenue cette belle et magnifique princesse, mais que le masculin, lui, n'a pas suivi. Il est encore étouffé, il est encore abîmé. Ce n'est pas grave. Il n'a pas pu suivre, il n'a pas pu se transformer de son côté. Mais ce n'est pas grave, parce que, comme le montre finalement la mythologie d'Isis et d'Osiris, il arrive un moment dans l'histoire où Osiris est coupé en petits morceaux par son frère qui l'a tué. Et qu'est-ce que va faire Isis? Elle va récupérer tous les morceaux, ça va lui prendre énormément de temps. Elle va devoir utiliser certains de ses amis, sa sœur, pour trouver les morceaux, puis tout réassembler et utiliser sa magie pour redonner de la force de vie, pour après avoir ce moment de conception sacrée du troisième de l'enfant, en fait, qui sera Horus. Donc c'est le féminin, un féminin donc, qui a pu se trouver dans le fait qu'il soit unique et authentique, et une fois qu'il est fort et puissant, qu'il est devenu magique, donc là on est dans l'âme qui agit, hein, la femme c'est l'âme, donc quand l'âme peut à nouveau agir, elle va pouvoir réparer le masculin abîmé pour après avoir l'union sacrée. Et on est dans ce stade-là de la guérison de cet Osiris. Et donc guérir le masculin divin, c'est prendre le temps de le retransformer, comme Isis l'a fait. Elle a pris le temps de rassembler les morceaux, de les rechercher. Et nous, de notre côté, on va devoir prendre le temps de transformer toutes nos croyances et toutes nos peurs à son sujet. Alors que notre féminin, comme je vous le disais, s'est vraiment développé, il veut pouvoir se manifester encore plus, hein, davantage. Et du coup, il va avoir véritablement besoin de trouver à ses côtés un masculin qui va pouvoir honorer toutes ses visions, un masculin honorable. Donc, il va nous falloir renforcer le masculin pour renforcer la relation, l'union, le mariage sacré, pour renforcer la communication. Donc, ce n'est pas chercher à guérir un masculin pour avoir un masculin fort, un masculin qui domine, hein, mais toujours, toujours rechercher un équilibre. Donc là, on a un féminin qui est plus fort. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aider le masculin. La question la plus importante à laquelle il va falloir répondre dans cette thématique, finalement, c'est bien celle-ci. Est-ce que mes deux principes sont en équilibre dans ma vie? Oui, peut-être, tant mieux. Non. Alors dans ce cas, il va nous falloir rétablir cet équilibre. Il va falloir guérir la relation pour que la communication soit rétablie et qu'elle soit surtout durablement rétablie. Voilà ce que l'on cherche finalement. Une communication, une union, oui, mais durable. C'est comme dans le couple, hein. Le couple est vraiment une métaphore de ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. Et du coup, j'insiste sur ce phénomène de durable parce que c'est dans la durée que l'épanouissement peut être total, que la confiance, vous vous souvenez de cette clé importante qu'est la confiance, hein, qu'on a pu voir dans le chapitre 9 du mois de juillet. La confiance était une clé d'importance. Et c'est avec le temps qu'elle était acquise. Là aussi, c'est pareil. On ne l'acquiert que dans le temps. Cette confiance, c'est ce maintien durable de l'équilibre. C'est être... Et une fois qu'on l'obtient, en fait, c'est être ensuite très attentif à tous les changements, même les plus subtils, qu'ils vont avoir lieu. Parce que s'il y a bien une chose qui ne change pas dans notre façon d'être incarné sur Terre, dans ce monde, c'est que la vie est pleine de changements constamment. Rien ne reste jamais tel quel. Tout évolue tout le temps, tout le temps. Il faut donc savoir se réajuster constamment, se réharmoniser tout le temps. Donc cette question de savoir si on est en équilibre, il va falloir se la reposer tout le temps. Et il va falloir agir tout le temps de telle façon à retrouver cet équilibre. Donc, cette mise en équilibre, je la vois comme la régénération du roi. Donc il va falloir se régénérer, se guérir très fréquemment. Que ce soit donc au niveau de notre âme, de notre féminin, de notre esprit, de notre masculin, on se rend compte que la guérison, et c'est ça qui est très très important dans cet enseignement au niveau de la huitième mère de clan, c'est que la guérison n'est jamais acquise. On sait très bien par exemple qu'après s'être soigné d'une écorchure, eh bien... on se soigne avec un spray antiseptique, on ne va pas jeter le spray après être tombé. On sait très bien que on va en avoir besoin, on ne se dit pas « c'est bon, j'ai nettoyé ma blessure, je n'en aurai plus jamais besoin, hop, poubelle !» Non, non, c'est faux. On a notre outil de soin, qui est ici notre spray, et il va falloir toujours l'avoir sous la main à chaque fois qu'on fait une balade, on l'emmène avec nous, etc. Ça nous paraît totalement ridicule de jeter ce spray-là qui a servi qu'une fois. Et pourtant, souvent dans le domaine spirituel, en tout cas, on pense qu'il faut se guérir une fois et qu'après, on est tranquille. Et c'est ça que la mère de clan, la guérisseuse, veut également nous dire, c'est que dans une vie, ce n'est pas le cas. Il faut se guérir très fréquemment. Et il faut guérir très fréquemment notre masculin sacré. Lui aussi, hein, il va avoir besoin de ce petit coup d'antiseptique. Et c'est ce que l'énergie de cette huitième lune nous invite à faire, à purifier notre feu, notre masculin, à le régénérer et à retrouver ce beau prince charmant qui nous fait totalement rêver. Et pour cela... Eh bien, je vais vous inviter à prendre un stylo et à répondre au questionnaire de cette page. Nous allons faire un bilan et nous allons, par ce fait, commencer à régénérer notre roi. Je vous remercie pour pour votre attention dans cet audio consacré à la guérison du divin masculin. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci encore et à très très bientôt.